Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Le retour de quoi je me mail avec un invité que je suis très heureux d'accueillir dans de quoi je me mail. On va renouer notre partenariat avec le Labo Fnac. Pour tous ceux qui suivent de quoi je me mail depuis plus de 20 ans maintenant, vous le savez, c'était un rendez-vous qui nous tenait à cœur. Et Lionel Costa nous a rejoint sur ce plateau. Salut Lionel.
Bonjour François.
Et oui, c'est la nouvelle génération du Labo. Lionel.
Cette nouvelle, oui.
Lionel qui est responsable du développement du Labo Fnac. Et c'est vrai que, tiens, j'ai une petite pensée pour tous ceux qui... tes prédécesseurs, hein.
Oui, oui, oui.
Les grandes figures du Labo, Victor Jakimovic, qu'on embrasse très fort, qui, je sais, suit de quoi je me mêle, qui est dans sa Bretagne natale et que je ne désespère pas de faire revenir sur le plateau de quoi je me mêle. On salue aussi
Pascal
Petitpas, qui lui est dans son Var en train de profiter de sa piscine. Pascal aussi, je sais que tu nous écoutes, on te salue. Et on va se retrouver régulièrement, Lionel, pour s'intéresser un peu aux tendances des produits high-tech, parce que le Labo Fnac, c'est peut-être bien de rappeler tout ça quand même, parce que le Labo Fnac, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente le Labo Fnac?
Alors déjà, merci de m'accueillir. Déjà, merci d'essayer de renouer
avec
ce lien-là.
Avec plaisir, avec plaisir.
Donc le Labo Fnac, c'est une entité qui a été inventée en 1972, en fait. L'idée existait, mais elle a vraiment été créée en 72 par
donc
les fondateurs.
Donc 50 ans du Labo Fnac.
Cette année,
on en reparlera d'ici la fin de l'année.
Exactement. 50 ans du Labo Fnac. Les fondateurs de la Fnac avaient eu cette idée géniale et vraiment avant-gardiste, qui était: on ne veut pas vendre à tout prix n'importe quel produit parce qu'il n'est pas cher, etc. Non, on veut conseiller le client. On veut le conseiller sur la base de faits, de vraies mesures. Mmh. Et ça a changé complètement par rapport au marché de la distribution de l'époque. Et donc, ils ont pensé cet endroit, grâce aux vendeurs à l'époque qui testaient eux-mêmes les produits, parce qu'il y avait très peu de magasins, évidemment, et les clients avaient un contact direct beaucoup plus simple. Et depuis 50 ans, on a fait évoluer ce labo, mais toujours avec la même mission. Celui d'évaluer, de mesurer, de se baser sur les faits des performances réelles des produits. Et c'est toujours la même chose, c'est l'AIFI, l'électronique. Après, on a augmenté le spectre de ce que nous testons, avec les smartphones évidemment, les ordinateurs, les imprimantes, mais on garde les casques, les appareils photo, les télés... Mmh. Depuis 1972, qui ont quand même bien évolué.
Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, elles se sont un petit peu amincies.
Un petit peu. Oui, exactement.
Un truc important, Lionel, parce que c'est vrai qu'on se dit, un magasin Fnac qui fait des tests, vous allez peut-être vous arranger avec les marques, etc. Je pense qu'il est très important de signaler ça. C'est qu'il y a vraiment, et moi je le vois parce que je connais un petit peu comment ça fonctionne tout ça.
Et tu es venu.
Voilà, il y a vraiment des silos vous n'êtes pas influencé par le commerce en quelque sorte.
Non, pas du tout. En fait, bien qu'on dépende du groupe Fnac Darty, donc on vend du matériel, etc., l'ADN du Labo Fnac est dans son indépendance aussi. C'est-à-dire que à partir du moment où on mesure un produit qui n'est pas bon, il a une étoile, deux étoiles, bien que la Fnac espère le vendre ou quoi que ce soit, nous, on affiche cette étoile-là. Notre information, elle est là pour vraiment accompagner le client dans son expérience en magasin et après. C'est-à-dire que si on lui conseille un produit, il l'achète, il arrive chez lui, il n'est pas content de son produit, il ne reviendra pas chez nous. Et ça, c'était la promesse en 1972 et elle existe toujours. Et cette indépendance-là, elle est vraiment opérationnelle. On va contacter le commerce pour savoir quelles sont les références de produits qui vont être vendus, qu'est-ce qu'il y a comme nouveau segment de produits, etc., nouvelle famille de produits. Mais c'est tout. Et ensuite, on va les informer sur les résultats pour leur dire...
Ça doit créer des tensions quand même parfois, non?
Ça crée des tensions tant qu'on n'explique pas les choses complètement. D'accord. Tout l'écosystème.
Ouais.
Parce qu'effectivement, si on se dit, on est là que pour punir en disant celui-là il est mauvais, tu ne le vendras pas, ça ne marche pas. Mais heureusement, on a des très bons produits et on a
D'une manière générale, l'innovation technologique s'améliore de génération en génération.
Oui.
C'est sûr. Les télés aujourd'hui, même une télé d'entrée de gamme a une qualité d'image qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a encore quelques années, quoi. Donc
c'est vrai que nous, en termes de mesures et d'évaluation, on voit les choses qui s'améliorent tout le temps. Après, c'est vrai que si on veut écouter de la musique, l'acoustique a pas changé depuis 50 ans en fait.
Oui, bien sûr. Et nos oreilles n'ont pas changé encore.
Pas encore. Mais bon, il y a des appareils qui sont là pour aider un petit peu. Mais voilà, donc la promesse attendue est toujours la même. Mais c'est vrai qu'au niveau des technologies, on a des choses qui sont quand même qui s'améliorent pour toutes les gammes.
Aujourd'hui, c'est combien de personnes qui travaillent et qui testent au labo ?
Alors, pour le labo Fnac, on est 7, donc c'est une toute petite équipe. Mm-hmm. Mais on a, depuis la fusion de Fnac et Darty, on a récupéré tous les gens du labo sourcing. Donc un laboratoire qui est là pour vérifier les mises en conformité de produits, etc., pour les produits sourcés d'Darty. Donc on est grosso modo une douzaine de personnes, sans compter les alternants et les prestataires qui travaillent avec nous pour faire fonctionner tout ça.
D'accord. Alors pour cette première, et de temps en temps on se retrouvera dans De quoi je me mêle pour évoquer les comparatifs, parce que bien sûr vous testez énormément de produits, vous les notez, avec peut-être, vous le connaissez si vous avez l'habitude d'aller regarder un peu ce que fait la Fnac, cette petite toile d'araignée qui est très emblématique. Le radar, moi j'appelle ça la toile d'araignée, parce que tout le monde appelle ça la toile d'araignée, mais c'est votre ça radar.
Qui viade,
en effet.
Radar, ouais.
Et pour cette première, on va s'intéresser au PC de rentrée, parce que c'est le moment. D'autant que le PC prend une importance de plus en plus grande dans notre quotidien, avec le télétravail, bien sûr. Enfin, on ne va pas refaire toute l'histoire. Donc j'imagine que c'est un segment que vous surveillez de près, non ?
Oui, et à titre personnel, sans expliquer toute mon expérience, en fait, moi je travaille pour le labo Fnac depuis 22 ans. Donc je suis une nouvelle génération, mais un petit peu d'expérience. Et j'ai commencé en tant que responsable des tests informatiques.
Tu as bien connu Victor, tu as connu Pascal
Petitpas, bien sûr. Lionel et Gerland qui a succédé. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est Predrag Petricevic à qui je passe le bonjour. Et donc, dans mon expérience de responsable de tests informatiques, j'ai pu croiser beaucoup de marques, j'ai croisé beaucoup d'ingénieurs. Et on a pu voir qu'au niveau protocole de test, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas évaluées correctement, en tout cas, selon nous, de manière équitable pour toutes les marques et pour les clients. Et dans ce qu'on fait, alors donc évidemment le segment ordinateur est un segment extrêmement important, et dans ce qu'on teste, on est les seuls labos à tester cette quantité-là de choses. On teste la partie qualité d'écran d'un ordinateur portable ou tout en un.
D'accord. On teste donc sa luminosité, son contraste, etc.
Colorimétrie, vue angulaire. On pourra revenir même d'ailleurs là-dessus, hein, mais la qualité d'un écran, d'un ordinateur portable, était souvent la partie un peu faiblarde. Mm-hmm. On se rappelle tous peut-être des matrices passives où lorsqu'on tournait, on inclinait l'écran, on avait les couleurs en négatif, on avait des choses complètement moches, invivables là-dessus. On a donc la définition, la densité de pixels, évidemment, pour vraiment le confort d'utilisation et la précision du point. On évalue également la partie audio. Donc là, c'est en chambre acoustique. Donc il y a des vidéos qui vont apparaître et qui montrent les équipements d'exception que nous avons au laboratoire. Donc en chambre anéchoïque, pourquoi ? Pour être sûr que lorsque l'on mesure le son produit par un ordinateur portable, on a une qualité audio qui est bonne.
Correct.
Et correct pour les visios.
Et avec le télétravail, évidemment, la qualité du micro, etc., etc. Donc, toute une batterie de tests. On peut imaginer qu'il y a combien de catégories aujourd'hui de PC pour quels usages, Lionel ?
En catégorie, il faut d'abord voir bien les typologies, les form factors. Il y a les ordinateurs portables, il y a les tout-en-un, donc les iMac, et on a les unités centrales. Ça, c'est vraiment les trois grandes familles. Mais après, ça se décline. Donc là, on va se concentrer un peu sur les ordinateurs portables et sur les ordinateurs portables
qui représentent le gros du marché.
Oui. Hein, oui, complètement. Ouais. Ça a tout mangé complètement. Même si le reste existe encore bien, les ordinateurs portables. En plus, ils ont su se diversifier et s'améliorer.
Bien sûr.
Avec des écrans qui sont 17 pouces les plus grands en moyenne, mais on a surtout des portables qui se transportent, qui sont autonomes. Anciennement, un portable qui faisait 4-5 heures d'autonomie, enfin je parle de ça d'il y a 20 ans, c'était déjà bien une petite prouesse. Mmh. Là aujourd'hui, on a des ordinateurs portables qui arrivent à tenir 20 heures, qui arrivent avec une luminosité qu'on a contrôlée, qu'on a vérifiée, avec une vraie fonction. En plus, c'est pas sur le bureau de Windows, on attend, on regarde, 20 heures, ça c'est...
En usage, on va dire.
Petit clin d'œil au marketing de certaines marques qui vont pas hésiter à annoncer ce genre de chiffres, et c'est là où on a une raison d'être au labo Fnac, c'est-à-dire de mesurer tous les produits de la même manière.
Et de tordre le cou à certains résultats qui sont un peu arrangés, on va dire.
Disons qu'en tout cas, personne ne ment, mais chacun a sa vérité.
Il nous reste 6 minutes, ça va très très vite, Lionel. Quels sont les PC, à ton avis, de cette rentrée qui valent vraiment le détour dans, on va dire, les catégories d'usage qui marchent aujourd'hui ?
Premier critère, je vais essayer d'aller très vite, c'est déjà quel type d'usage, tu as raison. Est-ce que je suis étudiant ? Est-ce que je vais l'utiliser de manière occasionnelle? Est-ce que je suis nomade? Je vais aller partout? Quels sont mes logiciels, les logiciels que j'utilise? Est-ce que c'est des logiciels pro qui dépendent d'un certain environnement? Donc la clé d'entrée, c'est vraiment la typologie. Est-ce que je reste chez moi avec? Est-ce que je vais me déplacer avec? Là, on sait déjà à peu près si c'est un portable ou tout en un ou une unité centrale. Ensuite, l'environnement. Si on est sur macOS ou Windows, ou Linux, en tout cas, il faut qu'on soit armé là-dessus, il faut qu'on sache selon les logiciels que l'on va utiliser, des logiciels pro ou pas. Ensuite, on a évidemment la cadence d'utilisation de l'ordinateur. Est-ce que ça va être très intense? Est-ce qu'on va être très exigeant ou pas trop? Et c'est là où on va avoir une vraie différence entre des produits de la rentrée qui sont très intéressants, des produits qui vont dépasser les 3000, 4000 euros, mais qui sont vraiment faits pour de l'usage très très professionnel, exigeant, et gaming principalement. D'accord. C'est souvent les plus chers d'ailleurs.
Ouais, bien sûr.
Et les gamers permettent aussi d'utiliser des logiciels pro qui n'ont rien à voir avec le gaming, mais qui vont utiliser.
Oui, parce qu'ils ont de la puissance sous le capot. Donc après, qui peut le plus peut le moins.
Si on fait de la modélisation 3D, avoir une bonne carte vidéo, c'est le minimum.
C'est le minimum.
Et donc là, les performances, en tout cas les spécifications qu'on attend, c'est d'avoir pour des choses très performantes, d'avoir au minimum 16 Go de RAM, un disque dur en SSD, ça c'est une évidence, d'avoir des processeurs.
16 Go de RAM, c'est important. Ouais. Disque dur SSD pour que voilà, ça booste aussi.
Une carte vidéo de minimum 4 Go.
Voilà, carte vidéo minimum 4 gigas.
4 gigas dédiés, mémoire vidéo, pas mémoire vidéo partagée. Et ensuite, la dalle.
Après, les processeurs, bon, voilà. Ça,
dernière c'est... génération, en fait, généralement, les marques ne vont pas mettre des top composants.
Ouais, c'est pas ça le sujet sensible, on va dire.
Mais voilà. Et donc, choisir entre Intel, AMD, etc., la grande guerre qu'on connaît historique, c'est pas qu'elle a plus lieu d'être, évidemment. Mais maintenant, les assemblages d'ordinateurs sont tellement optimisés qu'on se retrouve avec des produits très haut de gamme Intel, des très haut de gamme AMD.
Il nous reste 3 minutes. Il va falloir que. Oui, mais là, on a pris du temps au début pour présenter le labo, mais après, on ira un petit peu plus, un peu plus dans le contexte. Quels sont les modèles concrètement, Lionel, que tu nous conseilles pour cette rentrée?
Pour les fans de Apple, on va commencer par eux. Les MacBook Pro M1, c'est ceux qu'on a testés. On n'a pas encore testé les M2, ils sont en cours de test. D'accord. Les MacBook Pro M1, ils sont au-dessus du lot. Ils sont vraiment très bons. Donc le MacBook Pro M1, 32 Go de RAM, 512 SSD avec le CPU 10 cœurs et GPU 32 cœurs. Ça parle peut-être chinois pour plein de gens, mais j'espère que sur la vidéo,
on verra. Il suffit de faire du replay pour
exactement
écouter ce que tu dis.
Pour voir. Donc ensuite, un peu. En dessous des 2000 euros, on a le MacBook Pro classique, un 16 pouces, mais M1 Max, qui est très intéressant aussi, qui a obtenu 5 étoiles. Ça, c'est pour l'écosystème Apple. Ensuite, sur les ordinateurs PC, on a le Microsoft Surface Laptop 4. C'est tout bête, mais c'est un ultra portable qui marche partout. Il a obtenu 5 étoiles, il est très très bon. Les résultats de test montrent que c'est quelque chose qui est très optimisé, donc une très bonne autonomie, des très bonnes vitesses de calcul. Vraiment, c'est
donc le Surface Laptop 15 pouces.
4 15 pouces exactement. On a le Acer Swift 3 SF316, pardon pour les références, mais c'est souvent des références à rallonge. Pareil, celui-là, il est à 1199. Il a obtenu 10 sur 10 en performance. Enfin, c'est processeur Intel de 11e génération, 16 Go de RAM.
Donc, pour un peu plus de 1000 euros, on a quelque chose quand même de costaud.
Ah
on
oui,
va dire.
Vraiment. Après, si on veut aller dans quelque chose d'un peu plus polyvalent et accessible, il y a une bonne surprise aussi, c'est le Acer Vero, qui a été primé sur la partie empreinte environnementale, mais qui reste un très très bon produit et qui est à 799, donc environ 800 euros, ça peut encore changer au niveau des prix, qui a obtenu 5 étoiles. Et vraiment, c'est mérité. Et après, on a
On descend en gamme, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Okay. Et après,
on se rapproche des excellents rapports qualité-prix, puisque ce sont toujours même s'ils sont pas chers, ça va être les ceux qui sortent du lot.
Oui. Et on a des produits qui sont pas forcément à 5 étoiles, qui sont à 4 étoiles. Je pense au Lenovo Yoga Slim 7 Pro, qui est un i5, 16 Go de RAM aussi au SSD. Mais donc avec une carte vidéo un petit peu plus en dessous, mais qui permet d'avoir, on obtient du 10 sur 10 sur la bureautique. On a 10 sur 10 en qualité d'écran et d'autonomie. Mm-hmm. Et c'est intéressant parce qu'il y a des ordinateurs. On n'a pas forcément besoin d'avoir une vitesse de calcul folle. Par contre, on a besoin d'avoir une bonne autonomie. Et ça, c'est un équilibre à trouver. C'est pour ça qu'il ne faut pas se jeter sur le plus cher et forcément le meilleur. Non, ça dépend de l'usage.
Le Dell, j'ai vu que dans ta sélection, il y avait un Dell G15 aussi.
En gaming, très bon. Un très très bon qui a eu des très bonnes notes aussi. Celui-là, il est à 1099 euros. Donc pour un gamer, pas
ouais,
cher.
Ben oui.
Ça reste plus de 1000 euros, hein, ça reste un budget, mais quand on voit que les gros gamers sont à plus de 3000, 4000 euros, je pense d'ailleurs à des ordinateurs type Asus ROG Flow qui ont une carte vidéo déportée, en plus de la carte vidéo intérieure. Je conseille aux gens d'aller voir en magasin, surtout de les prendre en main pour se rendre compte de la chose.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on en a d'autres, mais malheureusement, le temps nous est compté et il faut qu'on arrête là, Lionel, mais je vais mettre toutes ces références sur la vidéo YouTube de quoi je me mêle, comme ça vous retrouverez. Évidemment toutes les références, etc.
Deux secondes simplement, spécial pouvoir d'achat, les produits reconditionnés, ne les oubliez pas, il y a des super bonnes
en
affaires
PC,
à faire.
On peut faire de bonnes affaires en reconditionné
avec une garantie de minimum un an, vraiment des top produits à pas trop cher, voilà.
Et vous faites ça aussi à la FNAC?
Et on fait ça à la FNAC et chez Darty aussi.
Parfait, merci beaucoup Lionel. Bah écoute, ravi, on va se retrouver de temps en temps dans avec De quoi plaisir. Je me mêle.